Il est 18h, c'est l'heure de Chronique démocratique sur Radio Campus Paris.
Salut, t'as deux minutes ?
Quand on me demande « êtes-vous démocrate ?»,
c'est très frustrant, mais on fait comme on peut.
Démocratie représentative ne suffit plus.
What kind of democracy is that ?
Des mobilisations citoyennes ?
Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Ah, on doit parler de la démocratie, là ?
Tu peux fumer en même temps ou pas ? Ouais, c'est street, quoi. Je t'écoute.
Un jeudi sur 4 à 18h.
Bonjour à toutes et tous. Installez-vous bien pour ce nouvel épisode de Chronique démocratique. Quoi de mieux pour comprendre le champ de la participation citoyenne que de donner la parole à une professionnelle de la participation ? Pour ça, on a demandé à Maya Abdelwahab de nous raconter son parcours. Maya a 24 ans et elle est tombée tôt dans le monde de la participation citoyenne. On lui a demandé à quoi ça ressemble de commencer à participer jeune et comment on fait participer les jeunes quand on l'est soi-même. Si Maya exerce toujours dans le champ de la participation, pour une collectivité d'Île-de-France, elle ne cache pas que son engagement initial n'est plus le même. Elle nous explique pourquoi. Bonne écoute sur Radio Campus Paris.
Imagine a boot stamping on a human face forever.
Alors, après le bac, j'ai fait des études de géographie. En fait, j'ai arrivé à la fac, je l'ai assez mal vécu. Et il m'a paru un moment assez évident d'arrêter, en tout cas temporairement, de faire une césure. À la fin de ma L2, je prends la décision de m'arrêter et je me dis qu'est-ce que je vais faire pendant cette année. Donc on est en septembre 2018 et je me tourne vers la solution assez évidente pour les jeunes qui est le service civique. Et donc, je dois le dire un peu par hasard, je me retrouve en service civique dans cette association qui s'appelle Démocratie Ouverte et qui travaille sur les enjeux de participation citoyenne, notamment à travers ce qu'ils appellent les innovations démocratiques, des nouvelles façons de faire de la démocratie. Donc c'est là que je découvre à la fois un écosystème professionnel, un écosystème militant, associatif, et puis c'est le début de ces politiques qui tendent de plus en plus l'oreille quand on parle de ces thématiques. Et puis il se passe ce gros truc qui est les gilets jaunes pendant mon service civique. Donc c'était un peu, j'aurais pas pu le prévoir, mais c'était un peu une aubaine. Et donc j'assiste notamment aux prémices de ce qui allait devenir la Convention citoyenne pour le climat. Et donc je vois un peu tous ces gens qui collaborent ensemble pour construire ce dispositif. Donc c'est là où je m'intéresse à comment on construit ces façons de faire la politique autrement. Je m'intéresse au côté un peu créatif de la participation citoyenne, qui est quelque chose que je n'avais pas envisagé auparavant. Donc je te disais que j'étais arrivée un peu par hasard dans ce milieu. Après, voilà, moi je suis d'une famille, on a toujours parlé politique à la maison, j'ai des parents qui se sont rencontrés dans un contexte politique aussi, on est de gauche, mes grands-parents aussi, donc j'ai toujours été intéressée par la politique de manière générale. Mais c'est vrai qu'en fait je ne m'étais jamais vraiment engagée à part 2-3 manifs. Je pense que je n'avais pas encore trouvé le bon moyen de m'engager. Un parti, c'était hors de question. J'ai été très marquée par le gouvernement Hollande et par ce que certains appelaient la trahison qu'ils ont fait à la gauche. Moi, je suis binationale et l'histoire de la déchéance de nationalité, c'est quelque chose qui a été un grand marqueur dans mon non-engagement politique pendant mon adolescence, en tout cas. Je me suis sentie vraiment trahie. C'est vrai que quand je tombe dans cet assaut, je me dis, bah ouais, la démocratie, c'est quand même un objet super intéressant. En fait, je me dis, c'est intéressant de parler de la forme. Bien sûr, il faut parler du fond, et c'est très important, et parler des vrais sujets, mais parler du circuit des combats et comment une lutte devient une loi et comment comment mieux décider avec les gens, les habitants, les personnes concernées, quel que soit le contexte. Je me dis pourquoi pas parler de la forme. En fait, je me rends compte aussi que ces personnes qui parlent de la forme, que ce soit encore une fois professionnellement ou politiquement, sont un peu toujours les mêmes, des personnes d'une trentaine d'années, d'un certain milieu, Moi, j'ai eu la chance d'assister au... comment ça s'appelait, en gros les jurys pour l'incubateur de démocratie ouverte qui s'appelait Système D, qui était c'était des moments super intéressants. Par contre, j'ai été effrayée par les profils tellement similaires qui se présentaient, des jeunes garçons, Sciences Po, entre 25 et 30 ans, chemise, petites lunettes. et je me suis dit, voilà, moi je suis une jeune femme, de parents immigrés, je me dis faut qu'on soit là aussi, c'est important d'investir ces espaces aussi, donc là a commencé le début de ma démarche militante puis professionnelle dans ce milieu. Je suis arrivée là-bas et puis 2 mois après le début de mon service civique, t'as la crise des gilets jaunes qui éclate. Et en même temps que la crise des gilets jaunes qui éclate, il y a cet écosystème professionnel de la participation citoyenne qui arrive à maturité. Et c'est à ce moment-là que se posent des questions, des vraies questions de fond. C'est le moment où Cap Collectif, qui est la plus grosse civic tech en France, se met au service du gouvernement pour le grand débat national et en même temps met à disposition gratuitement sa plateforme pour un groupe de gilets jaunes. Et c'est le moment de questions dans l'écosystème sur est-ce qu'il faut faire ça, où s'arrête le militantisme et où s'arrête juste l'offre de service à n'importe quel gouvernement. Est-ce qu'on doit servir n'importe quel gouvernement? C'est aussi la période de la discussion entre est-ce qu'on est un outil ou est-ce qu'on se met plus en position de conseil ou, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui étaient pas qui savaient pas trop faire le choix entre les deux et en fait la question qui se posait beaucoup, c'est est-ce qu'il faut le faire, ce choix? Est-ce que c'est vraiment une question à se poser? Est-ce qu'on doit rester un outil ou est-ce que dire on va transformer la démocratie, ça passe que par de l'outillage ou qu'il faut une vraie philosophie derrière et des vrais principes? Il y a des questions de l'open source qui se posent aussi à ce moment-là. Donc je vois tous ces questionnements, j'avoue, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout et en même temps, moi, il y a quand même ce truc qui me chiffonne assez rapidement. Qui est ce paradigme de l'innovation démocratique, qui est quelque chose qui, avec les années, s'est affiné. C'est quelque chose que je tiens encore plus qu'à l'époque aujourd'hui. Ce concept de transformer la démocratie par l'innovation et par de nouvelles choses, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de vote, de nouvelles technologies. Voilà, ça, en 2018-2019, ça commence déjà à me chiffonner. Je me demande, est-ce qu'on peut vraiment mettre ces outils entre les mains? Et il y a des discussions avec des collègues sur mais est-ce qu'on doit accueillir ces gens et est-ce qu'on nos outils on doit les donner à tout le monde ou est-ce que on garde nos idées et on choisit d'outiller ce qui nous semble intéressant d'outiller. Donc voilà, moi il y a cette question de la transformation par l'outil et par la survalorisation de l'outil. À l'époque c'était beaucoup la tech, je pense qu'avec la crise du Covid on est un peu revenu, mais à l'époque c'était vraiment, il y avait un discours un peu latent de la tech va sauver la démocratie qui me questionnait beaucoup et qui me questionne toujours beaucoup. Et donc voilà, ça, c'est les failles que je repère dès le début. En fait, ce qui s'est passé après mon service civique, je ressors la tête pleine de nouvelles choses, mais je me dis, je vais revenir à la fac et je vais reprendre mon chemin pour devenir prof, comme je l'avais bien conçu depuis le lycée. Et en fait, je m'engage dans une association qui s'appelait Action Commune, avec des anciens collègues, où on aide des listes participatives citoyennes pendant les élections municipales en 2020. Donc ce sont des gens qui montent des listes hors des partis pour ces élections municipales. Et ce sont souvent des listes de citoyens qui ont la démocratie au cœur de leurs revendications, de leurs programmes. Il y a beaucoup ce triptyque justice climatique, sociale, démocratie et participation citoyenne. Donc voilà, on est de ces gens-là, on en repère 400. Et sur ces 400 qu'on repère, on en repère ensuite 100 qui gagnent les élections, une petite centaine. un peu moins peut-être, et on se constitue assez naturellement en coopérative. La coopérative s'appelle Fréquence Commune, pour soutenir ces personnes qui viennent d'entrer dans l'équipe municipale de leur commune. Et je continue comme ça, et je suis salariée de Fréquence Commune à côté de mes études, j'entre en master. Puis à un moment, je me dis, je sais pas, ça me paraît évident. Je pense aussi qu'à la fac, je suis un peu en souffrance. C'est dur, ça m'a un peu, ça a permis de me mettre un peu les choses en perspective, mais pas totalement non plus. Et je sais pas, il y a un truc qui coince et je me dis, à un moment, arrête de te torter dans tous les sens, arrête de te forcer à te suivre une voie que tu t'es dessinée quand t'avais 17 ans. Et je me dis juste, va avec, va pas contre le courant, quoi. Suis ce que t'es en train de faire. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer de professionnaliser ce que je suis en train de faire. Et en même temps, je sais pas trop où je vais. J'avais très envie le service public, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ouais, je voulais être prof avant, donc ça me paraît cohérent, en fait. Et je sais pas, j'ai l'impression que je me pose pas trop la question de ce qu'on peut faire dans le service public, en participation citoyenne. Mais je sais pas, j'entends parler de ce master à Paris 1 depuis des années. Je me dis, allez, on va tenter. En fait, je me pose pas trop de questions, et puis je me retrouve dans ce master. Et puis ensuite, je fais un stage à la mairie de Strasbourg, où là, je suis dans le service participation citoyenne. Et je me dis que ma place est là. Pourquoi je me dis que ma place est là? Moi, j'avais peur d'être frustrée par la place d'agent, par la place de personne dans l'administration, là où, parce que c'est une place qui est assez méconnue finalement, et par rapport notamment aux élus, qui sont en fait les personnes qui prennent les décisions, aux adjoints, aux conseillers municipaux. Et au final, c'est une place dans laquelle je me suis sentie à l'aise, on est dans une position d'accompagnement des élus, d'outillage, mais de l'outillage au service d'un programme, pas de l'outillage pour changer la démocratie. On n'offre pas les outils ne sont pas magiquement transformateurs de la démocratie, mais on a des élus qui ont une ambition et on leur dit, voilà, c'est pour parvenir à cet objectif, vous pouvez organiser de telle manière ou de telle autre. Et je sais pas, c'est une posture que j'ai trouvée vraiment intéressante et en même temps, et ça c'est ce qui m'attriste un petit peu, qui a réduit un peu mon énergie, l'énergie militante que je mettais dans cette cause. Je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas, en tout cas qui commençait à être difficile de parler de participation citoyenne au bureau et avec les copains et dans les groupes un peu militants. Donc là, c'est ma question du moment, c'est comment je régénère les petits papillons militants dans le ventre et en même temps sans que ça impacte mon travail, parce que je n'ai pas envie d'être militante au travail, même si tout est politique. Et dans une administration, je pense que la communication et la participation citoyenne, on est les services les plus sensibles politiquement. Donc il est difficile de pas prendre de décisions qui soient pas un tout petit peu politiques. Mais voilà, j'ai pas envie d'être militante au travail. J'ai aussi un autre truc que j'ai pu constater, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin aussi de séparer militantisme et carrière professionnelle, parce que je pouvais pas être militante de 9h à 18h, quoi. En tout cas, c'est un mode de vie qui ne me convenait pas.
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique.
C'est marrant parce que les jeunes, et ça, comment dire, comme je suis encore jeune, j'ai pu être prise dans mes expériences assez récentes dans ces mêmes discussions. Tout le monde veut parler aux jeunes. comment toucher les jeunes? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, comme si les jeunes, c'était quelque chose de très... de très distant, et comme si on ne savait pas leur parler, ne pouvait pas leur parler. Est-ce que les jeunes ne veulent pas entendre? C'est souvent ces questions qui se posent. Qui se posent en fait même entre gens qui sont jeunes eux-mêmes. Et je me souviens que ça me questionnait aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est les jeunes que vous voulez chercher ou est-ce que c'est juste une autre catégorie sociale? Et qu'est-ce que vous entendez par jeunes? Alors, il y avait des petites expressions, les jeunes des quartiers, les jeunes ruraux, les jeunes... En fait, voilà, on s'est vite rendu compte que les jeunes, on ne les touchait pas de la même manière, que les jeunes sont aussi empreints de caractéristiques socio-géographiques, sauf pas les jeunes. Et oui, donc moi, je suis au milieu de tout ça, et c'est vrai que je suis un peu genre... bah ouais, comment on leur parle aux jeunes? Comme si moi, je ne pouvais pas, non plus y répondre. Et en fait, la réponse que j'ai pu trouver... surtout avec mes expériences qui ont suivi, qui ont plutôt été sur des échelles très municipales, c'est d'abord les jeunes ont autre chose à faire. C'est vrai que souvent les personnes qu'on arrive le plus facilement à toucher, ce sont les gens qui ont le temps, les gens qui ont l'argent, les gens qui n'ont pas à se poser la question de comment je vais me nourrir à la fin du mois, et qui sont peut-être un peu plus prêts aussi à donner du... Je ne dis pas que les jeunes ne donnent pas de temps aux autres, mais c'est vrai qu'ils sont souvent dans des phases de construction où déjà à l'intérieur, c'est un peu le chantier, alors essayer de construire ce qui se passe autour, c'est compliqué, d'autant plus que si on veut parler des jeunes qui font des études, ils sont souvent derrière entre deux chaises, ils n'habitent pas vraiment dans la ville où ils font des études, ils n'habitent plus vraiment chez leurs parents, donc en fait, c'est compliqué de les intéresser à des enjeux locaux. C'est pour ça que je pense qu'ils vont très vite sur des luttes plus globales, sur la lutte pour le climat, pour les droits des femmes. Je pense que ça paraît plus évident que le skatepark à côté du lotissement de je ne sais pas quelle ville. Quoi. Et pourtant, moi, l'échelle municipale m'a très, très vite intéressée parce que je pense qu'au niveau participation citoyenne, je l'ai trouvée particulièrement impactante. Et en fait, comment on va chercher les jeunes sur ces échelles où ils ne se reconnaissent pas, qui ne les intéressent pas et à laquelle ils ne peuvent pas forcément s'intéresser parce qu'eux-mêmes ne savent pas où ils seront l'année prochaine et pourquoi s'investir dans une ville où les jeunes ne peuvent pas être sûrs de s'ancrer. Par exemple, ça c'est Juliette Roth de la CNDP qui tient ça assez fort et je trouve ça intéressant. Elle disait qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser des arguments presque cyniques pour mobiliser les jeunes, dire que s'ils viennent à une réunion de concertation... C'est aussi une opportunité pour eux, professionnelle, humaine, ne pas leur dire seulement de faire ça pour la cause, par citoyenneté. Voilà, s'ils viennent là, c'est une occasion pour eux de renforcer leur réseau dans une ville qu'ils ne connaissent pas ou moins, ou de rencontrer des gens qu'ils ne pourraient pas rencontrer autrement. Ne pas hésiter à mobiliser ces arguments très, très pragmatiques, en fait, si on veut vraiment avoir des jeunes. C'est comme toutes les populations, si on veut vraiment les avoir, il faut mettre les moyens. C'est comme la question de la rémunération des citoyens dans les panels. C'est à un moment donné, si on veut toucher des gens qui n'ont pas les moyens de se libérer en soirée pour venir à une réunion publique, il faut les rémunérer ou il faut de la garde d'enfants ou... Je ne pense pas que ce soit un danger pour la démocratie de brandir l'argument un peu financier. Si vous venez en réunion publique, ça me permettra, ou si vous faites partie de ce panel qui se réunira tous les tels temps, ça permettra de mettre un peu de beurre dans les épinards. Je pense que c'est pas honteux, c'est pas sale. Et c'est lié à une autre chose aussi qui m'a beaucoup marquée dans mon service civique. C'est vrai que quand on a le nez dans la démocratie, peut-être on a un peu de mal à s'en sortir et on glisse vite sur des discours du genre sur l'urgence démocratique. Il faut changer ça, c'est urgent, c'est maintenant. En fait, la démocratie, ce sera jamais la priorité de personne tant qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont froid, qui ont faim. Ce n'est pas possible, on ne peut pas parler d'urgence démocratique à ces gens, je ne vois pas comment c'est possible. Je pense que, puis encore plus face à l'urgence climatique, C'est un truc que j'entends encore parfois, une bonne vieille dictature verte pour sauver la Terre. Pourquoi pas, en fait. Je ne le pense pas, mais... Je ne trouve pas qu'il soit forcément évident de montrer que ce n'est pas la démocratie qu'on va sortir de la crise climatique. Et pourtant, c'est un discours que certaines organisations tiennent et que je trouve tient à l'écart une certaine catégorie de la population, qui est quand même une bonne partie de la population, pour qui la démocratie ne sera jamais une priorité. Et c'est pour ça que de ramener ces discussions dans lesquelles ces gens-là doivent être sur avec des arguments beaucoup plus pragmatiques, voire cyniques, je ne trouve pas que ce soit, honteux ou sale.
Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout.
J'ai vraiment voulu être agent pour dépassionner. Moi, je sais que aussi, c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un de, je pense, très intense et je ne peux pas vivre. Je ne peux pas supporter une telle intensité de vie constante. Je ne peux pas être trop passionnée par mon travail parce que j'ai besoin d'une vie à côté de mon travail. Je sais que je ne peux pas mentalement tenir un travail où j'y pense tout le temps, où je serais tentée de travailler tout le temps, où je serais capable de faire un peu plus d'heures pour la cause, en fait. C'est tout l'enjeu du travail militant. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le travail en association, le travail dans l'ESS. Je pense que ça rejoint pas mal ces questions-là. On est toujours prêt à donner un peu plus quand on travaille pour la cause. Et tu me diras, moi j'ai choisi, en tout cas pour le début de ma carrière, de travailler dans le service public. Donc c'est aussi une cause qui me touche. Je sais pas, on n'est pas entre groupes de militants, quoi. On n'est pas entre gens un peu intenses, on se bat pour des idées, non, là, on fait ce qu'il y a à faire. Alors ça a ses défauts, hein. Clairement c'est pas parfait, mais en termes d'épanouissement professionnel, je veux dire, mais c'est en tout cas un modèle de carrière professionnelle qui me convient, en tout cas maintenant, aujourd'hui, beaucoup mieux que... ce côté un peu intense du militantisme professionnel, je vais dire.
Vous venez d'écouter le récit de Maya. Nous avons voulu, à travers cet entretien, vous montrer l'envers du décor, le quotidien et le parcours d'une professionnelle de la participation. On a pu y retrouver des éléments évoqués par Julie Plouinec dans le 4e épisode, sur des liens entre engagement et militantisme dans le champ de la participation. Nous remercions chaleureusement Maya et lui souhaitons une belle continuation. Vous avez écouté Chronique démocratique, une émission créée et réalisée par Marie Aubert et Yann Bassereau, en coproduction avec Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois à 18h. À bientôt !